Donc moi je suis Philippe Martin, je suis professeur à l'université de Lyon 2 et pendant à peu près une heure je vais vous parler donc des questions de radicalisation. Alors les questions de radicalisation, elles se posent dans notre société de manière d'abord chiffrée, hein, donc avec la violence, les attentats tels qu'ils nous ont été donnés. Il se pose aussi en question de prévention, hein, et donc vous connaissez tous toutes les opérations, tous les numéros verts, toutes les opérations de sensibilisation et tout qui se passe. Et donc, je vais vous parler de radicalisation avec d'abord quelque chose qui est ce que vous entendez en permanence dans les médias, c'est l'islam et la radicalisation. Ce que je vous demande quand même, c'est d'attendre toute la fin. Je pense que, enfin j'espère, que je vais un peu vous surprendre à certains moments. Alors, les médias ne nous parlent que de radicalisation et islam. À ce moment-là, si on regarde uniquement par ce petit bout de la lorgnette, on a deux attitudes. Une attitude qu'on peut appeler essentialiste et une attitude qu'on peut appeler fonctionnaliste. L'essentialiste, c'est celui qui vient de la religion et qui va vers la violence. Et l'idée, ça serait que de toutes les manières, l'islam amène à la violence. Un exemple, ce monsieur, Fabien Klein, qui est mort au début de l'année, hein, il est né en 1978, il s'est converti à l'islam en 2000, donc là on a vraiment un parcours personnel, il s'installe à Toulouse, et il commence à se lancer dans la vente sur les marchés de produits halal, shampoing, crème de beauté, rouge à lèvres, etc., etc. Et là, il est en couple avec sa femme et puis son frère. Et si vous voulez, sa femme et son frère font fonctionner l'étal, et lui repère les gens et puis il se lance dans des discussions, etc. Il va se fournir en Belgique pour ses produits et il va se fournir en Belgique dans le quartier de Elbeek. Vous avez entendu parler, etc. En 2004, il est accueilli par Olivier Corel. Olivier Corel est un personnage un petit peu curieux de la région de Toulouse. On le surnomme l'émir blanc. La police n'a jamais rien pu lui reprocher. Hein, il dit non, moi j'ai une grange, j'accueille des copains et tout, on se fait des méchouis, etc. Il se trouve qu'une grande partie des radicalisés très actifs en France sont passés chez lui. Enfin. Du coup, avec famille, enfants, il se fixe en Syrie. Hein, il est déjà repéré par la police, mais pour le moment, c'est un radicalisé religieux, hein, il n'a rien fait de particulier. Et puis après l'attaque du Bataclan, il devient ce qu'on appelle la voix de Daesh, autrement dit, c'est celui qui, juste après l'attentat, va parler de l'attaque bénie de Paris contre la France croisée, et il est une des cibles majeures des forces anti-Daesh dans ces zones, et donc il est tué par un drone il y a quelques mois. Autrement dit, là, on a bien le parcours de quelqu'un qui, au début, n'est pas du tout religieux, qui se convertit, qui, pour vivre sa foi, en arrive à vendre des produits, et puis qui en arrive à la radicalisation, au terrorisme. Alors ça, dans cette idée, c'est de dire, ben voilà, l'islam, de toutes les manières, amène obligatoirement à ça. Parce que dans l'histoire, enfin vous écoutez, puis enfin il faut attendre vraiment la fin. Hein. Bon, là je me fais un peu l'avocat du diable, si vous voulez. Et donc dans l'islam, on arrive à ça, puisque déjà dans l'histoire, on a eu des mouvements de ce type. Et un des mouvements de ce type, c'est les Nizariens. Les Nizariens, c'est un groupe qui intervient dans une région qui est mal contrôlée par les pouvoirs. Quelque part au nord de la Syrie, au XIIe siècle. C'est à peu près à l'endroit où est apparu Daesh. Un monsieur surnommé le vieil homme de la montagne, hein, espère que Dieu lui parle. Dieu lui parle, et voilà, les révélations, la résurrection des résurrections. Ô vous les êtres qui peuplez les univers, vous génies, hommes et anges, sachez que notre Seigneur est le résurrecteur, autrement dit notre chef, hein, est le résurrecteur. Le vieil homme de la montagne est un intermédiaire tout à fait donné entre Dieu et les hommes, c'est lui qui va donner la parole de Dieu. Il est le Seigneur des êtres, il est le Seigneur qui est l'existence absolue, excluant ainsi toute détermination existentielle, on dissout tout pour vous. Il les transcende toutes, il ouvre la porte de sa miséricorde et par la lumière de sa connaissance, il fait que tout être soit voyant, entendant, parlant, vivant pour l'éternité. Ça, on pourrait dire... Si vous êtes un historien, vous dites au XIIe siècle, voilà, c'est un chef de mouvement. Et puis si vous parlez maintenant, vous dites, bah, c'est quelqu'un exactement qui va contrôler la pensée des gens. Et voilà, les croisés, puisqu'on est en plein moment des croisades, qui rentrent en contact avec ce vieil homme de la montagne. Sachez qu'on confine de Damas, d'Antioche et d'Alep. De vous rappeler l'actualité et tout. Hein. Il existe dans les montagnes une certaine race de sarrasins, musulmans, qui dans leur dialecte s'appellent et c'est signé. Et en romain, seigneur de la montagne. Et vous savez que ce vieil homme de la montagne a des assassins, on pourrait dire des terroristes en quelque sorte, qui vont régler leur compte au seigneur qui essaye de faire de l'ombre à son groupe des Nizariens. Voilà. Alors vous prenez Fabien Klein, vous prenez un exemple comme ça, je pourrais en multiplier d'autres, et vous avez un élément qui est un élément essentialiste. Voilà. D'ailleurs, trop de religions musulmanes amènent obligatoirement à la violence. Trop de religions musulmanes amènent obligatoirement au djihad, qui voudrait dire la guerre contre les Occidentaux. C'est ce qu'on vous dit. On verra tout à l'heure. Je viens que djihad, ça veut dire faire un effort. Hein. Donc, je fais un effort sur moi-même. C'est ça, la vraie guerre. La vraie guerre, c'est ma tête. Le mal que j'ai en moi, etc. Bon. Aujourd'hui, alors je saute des Nizériens, vous avez un groupe qui se revendique de cet essentialisme, c'est ce qu'on appelle les salafistes. Les salafistes se regroupent de trois manières. D'abord, ils ont une vision conservatrice, donc ils rêvent d'un âge d'or, celui des pieux ancêtres, salaf, hein, c'est-à-dire un âge d'or où on vivait selon les règles du Coran, selon les règles religieuses, etc. etc. Bon, je signale d'ailleurs que tout mouvement religieux qui vous parle de la tradition ne fait qu'inventer quelque chose. La tradition, ça n'existe pas. Que du coup, dans cet âge d'or, il y avait une communauté des musulmans qui était unie. Il faut retrouver cette unité. La communauté des musulmans n'a jamais été unie. Et que le discours que développent les salafistes, c'est ce que François Burgard appelle le lexique du discrédit. Autrement dit, je vous dis quelque chose, et de toute manière, vous... C'est pas à peine de discuter avec moi, puisque votre parole, je la considère comme un pied et nul. Et plus vous me critiquerez, plus vous renforcerez dans l'idée que j'ai raison. La discussion est bloquée. Alors on a trois types de salafistes. Le salafiste quiétiste, il veut trouver la sainteté personnelle, alors il peut se retirer du monde, il a une indifférence affichée à la politique, rejet de la démocratie qui mène à l'hérésie, il vit dans son coin, ce qui a permis à un journal... Québécois qui s'appelle Le Devoir de titrer il y a quelques années, vivement que toute la société soit radicalisée. Parce que chacun vivrait sa religion dans son coin, la non-violence, il y aurait plein de petites entités toutes seules, on n'aurait pas de contact les uns avec les autres, ça serait pas une... Je ne sais pas que ce serait particulièrement épanouissant, mais ça ne serait pas violent. Deuxième attitude, c'est le salafiste contestataire, qui critique les régimes politiques de l'Occident avec une protestation symbolique. Les vêtements, alors là je vous ai mis les vêtements masculins, c'était très étrange. Et on vous parle toujours des femmes voilées. Et jamais des hommes qui portent aussi des signes religieux et tout. Là, dans ce salafisme contestataire, vous avez une offensive qui se mène dans pas mal de municipalités à l'heure actuelle. C'est l'idée de rentrer dans une piscine, hein, avec complètement couvert, en espérant qu'un jour, un maire refusant l'escalade autorise les choses. Et alors là, il faut pas se leurrer. C'est le doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un maire dira oui, dans 10 ans, quelqu'un va dire « Ouais, mais ce serait peut-être mieux quand même qu'il y ait des horaires pour les femmes et puis pour les hommes. Hein. Ce serait mieux quand même. » Puis après, on arriverait quand même à un phénomène de communautarisme. Hein. Là, on est sur des mouvements qui... Enfin, il n'y a pas de plateforme de discussion. Puisque, je vous le rappelle, on est sur l'éthique du discrédit. Et puis, le troisième élément, c'est le salafisme révolutionnaire. Donc c'est celui qui veut, alors, soit prendre le pouvoir, soit obtenir une société suffisamment tendue pour vivre en communauté. c'est-à-dire nous dire à nous, démocratie, vous voyez, je ne peux pas vivre ma vie religieuse, vous ne me donnez pas les moyens, donc laissez-moi mon quartier, fichez-moi la paix dans mon quartier, et moi, je gère moi-même mon quartier. Bon. Ça, c'est donc une attitude. Deuxième attitude, c'est le fonctionnalisme. C'est-à-dire des gens qui sont violents et qui donnent un sens religieux à leur violence. Exemple, Omar Djarbi. Donc là, je prends spontanément deux des principaux radicalisés français qui étaient sur le théâtre de Syrie. Bon, je ne les suis pas en permanence tous les jours. Hein. Aux dernières nouvelles, il a été arrêté à l'automne et libéré par les Américains. Donc il sera encore vivant. Omar Djarbi, né à Dakar en 1976, arrive à Nice à 6 ans, et il se fait connaître du quartier de Nice. Pourquoi ? Pour ses braquages. Et en particulier pour un certain nombre de braquages de bijouterie de Monte Carlo. Donc ça apparaît comme le super costaud qui est en grande voiture, qui a des flingues, qui a de l'argent, etc., etc. Et puis de cette violence, qu'est-ce qu'il va en faire ? Ben, il va donner un sens à cette violence, si vous voulez. De la violence qui est dans un premier temps, je capte de l'argent, il va avoir une violence où je veux être une espèce de chef dans mon quartier. Puis ce chef, je veux devenir une espèce de Robin des Bois. Si je fais ça, je trouve une justification. Et la justification ultime, c'est ben, je le fais au nom de la religion. Il va essayer de passer au Yémen en 2011. Il finira à rejoindre la Syrie en 2013, où il anime un groupe de 150 combattants. C'est extrêmement intéressant, il fait beaucoup de vidéos. Alors, c'est des vidéos, on a vraiment l'impression qu'aller en Syrie avec Omar Hussein, c'est le club méditerranéen, quoi. Car vous êtes sous les oliviers, vous faites des méchouis, vous plongez dans les piscines, vous construisez des écoles, c'est super. C'est marrant, il n'y a que des gars, d'ailleurs. Loin, vous voyez des espèces de fantômes tout noirs. Vous ne faites pas attention, hein. C'est peut-être des femmes. Enfin, ce sont des femmes. Et puis, de temps en temps, ben, ils ne diffusent rien. Hein, pourquoi ? Parce que son groupe est un des groupes les plus violents qui existait sur le théâtre de Syrie. Et on le prête à son groupe. Alors là, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. On prête à son groupe, vous voyez, une espèce de combattant de choc. De ça. Alors, on aurait donc des pauvres gars, hein, qui, au contact de la violence de la prison, se radicaliserait de manière religieuse. Alors, on a l'exemple de ces gars, c'est Mohamed Merah. Alors, Mohamed Merah, vous le connaissez, c'est les tueries de motoboy de Toulouse en 2012, et vous savez qu'à la fin de son espèce d'aventure, il a été coincé par la police, et on a enregistré ses paroles. Et on travaille sur des logiciels pour analyser les discours des gens. Le but des forces de l'ordre, ça serait de savoir en temps réel, pour le moment ça n'existe pas, quand est-ce qu'on devrait agir. C'est-à-dire quand est-ce qu'une personne, on peut continuer à discuter, puis il faut arrêter de discuter. Bon, dans le cas de Merah, c'est clair, il ne veut pas en sortir, hein, il veut se faire tuer. Et alors là, vous voyez, avec des couleurs, c'est registre de langage. Hein, donc on a des heures et des heures d'enregistrement et tout. Et vous remarquez une chose, c'est que la religion ne tient qu'un tout petit espace. Regardez, militaires, tués, armes, France, Afghanistan, connaître. Enfin, on est vraiment dans un domaine non religieux. Et ce qui concerne le domaine du religieux avec Allah, ben, vous le voyez, grenade, voiture, scooter. Autrement dit, n'essayez pas de lui parler des hadiths, du Coran, etc. Vous allez le revoir, on va voir des expressions de son vocabulaire. C'est un niveau théologique qui n'existe pas. Ce qui compte pour ces gens-là, ce n'est pas la connaissance que vous avez, mais c'est ce que vous avez fait. Autrement dit, dans l'islam, normalement, vous vous formez en ayant appris le Coran. Là, ce qui compte, c'est qu'on vous apprend trois bouts de sourate, puis on vous envoie sur un théâtre, alors l'Afghanistan, la Syrie, etc. Et après, vous pouvez revenir, ça y est, vous avez toutes les bénédictions, vous êtes le vrai musulman. Alors, ça nous donne des formules comme ça, de Merah. Bah, c'est une interprétation, comme on veut que ce soit, c'est l'interprétation du Coran. Tous les versets du djihad, tous les versets du... Alors là, il prononce un mot arabe que personne ne comprend, parce que son niveau d'arabe doit être à peu près équivalent au mien. Tous les versets qui nous incitent à combattre les ennemis se trouvent dans le Coran, ils sont clairs, évidents, t'as vu ? Vous pouvez chercher, enfin, théologiquement, ça ne tient pas la route. Le message, c'est que, bah, islamiquement, bah, j'ai le droit de tuer. de tuer des civils comme ça. T'as vu Allah, il dit quoi dans le combat? Combattez-les comme ils vous combattent. Vous voyez, ça agit uniquement par formule et tout. Et ça, ça nous donne cette gigantesque toile de terroristes qui sont des terroristes en Europe, hein, qui ont le même parcours. Ok. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre type de radicalisé dont vous avez peut-être entendu parler, c'est qu'à l'été dernier, il y a eu en Allemagne deux attentats de gens qui, hurlant à Allah Akbar avec un couteau, sont précipités dans des bus. Il y a eu un mort et des blessés. Donc je vais vous présenter un radicalisé, on va le voir, je vais vous, presque vous donner son adresse et tout. Il se balade avec des couteaux, il tue des gens. Ben, Ravaillac, l'assassin d'Henri IV, est un radicalisé. Ce que je viens de vous dire dans ma première partie sur l'islam n'est pas faux. Mais je crois tout de suite qu'il va falloir relativiser plusieurs choses. D'abord, le phénomène, malheureusement, n'est pas nouveau. Et deuxièmement, le phénomène n'est pas musulman. Ravaillac, c'est exactement ce que je vous ai décrit avec les deux personnages. C'est un personnage qui veut rentrer dans les ordres religieux. Comme il demande à deux fois à rentrer, comme on le considère comme un dingue, tout le monde dit « Non, non, il est hors de question que tu rentres chez nous. Hein ». Donc du coup, Dieu commence à lui parler directement. Et dans son espèce de délire, Dieu lui dit « Tu vas tuer Henri IV ». Et donc vous imaginez notre espèce de dingo qui un jour se pointe un grand couteau à la porte du Louvre, « Toc, 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 bonjour, je voudrais voir le roi ». Puis les gardes lui disent « Bon, ben, je balance, il aurait peut-être mieux fait d'arrêter ». Le lendemain, il erre dans les rues de Paris, donc c'est complètement halluciné. Il toque dans un carrosse. Ah, le roi, il le poignarde. On a un chrétien et on a quelque chose qui remonte quand même à quelques siècles. Autre exemple, pour essayer quand même de bien comprendre que ce n'est pas un phénomène lié à l'islam. Ce monsieur, David Koresh. David Koresh, il est mort en 1993. D'abord, relativement indifférent, c'est un Américain, il rejoint l'église adventiste du septième jour, c'est-à-dire un des mouvements d'un grand type de confession qu'on appelle les évangéliques. Donc, ancrage religieux. En 81, il rejoint un groupe encore plus radicalisé que l'église adventiste, qui sont les Davidiens de Waco, Waco étant la localité où ils sont. En 1983, il assure que Dieu lui parle directement. Et donc, en 1985, il se déclare le Cyrus moderne. Cyrus, celui qui va rétablir le pouvoir de Dieu sur la terre. Vous connaissez la suite. Quand les forces de l'ordre américaines commencent à s'inquiéter de la chose, ils vont, entre mars et avril 1993, faire le siège de Waco, 82 morts. Plus près de nous, lors du temple solaire. Donc là aussi, groupe ésotérique fondé en 1984, avec une espèce de mélange où il est question des planètes, de soucoupistes, d'ordre templier ancien, etc. Et vous connaissez le résultat. Massacre de Chéry en 1994, 25 morts. Massacre de Saint-Pierre-Chérène, 16 morts. Hein. Alors officiellement, les tenants du groupe disent que c'est parce que Cyrus passait juste au-dessus de la Terre et donc il y avait un vaisseau spatial qui les attendait, mais que comme les enveloppes terrestres étaient trop lourdes, il fallait se suicider et au moment du suicide, comme le vaisseau était juste au-dessus, là, pss, votre âme, elle partait, vous montiez dans le vaisseau et vous étiez réincarné. Bon. Et puis quand même, bah, tout le monde va où j'en arrive, hein. Norvège, 77 morts, 151 blessés. Breivik, qui n'est pas musulman, qui n'est pas immigré, qui se déclare comme fondamentaliste chrétien et protestant traditionnel. Mais du coup, quand le journaliste du Monde, Bernard Guig, voit un peu mieux dessus, on s'aperçoit qu'il ne cite pas la Bible et qu'il se dit lui-même moyennement croyant. C'est quoi ce... Ben, ça va vous rappeler Mera, hein. Qui parle quasiment pas d'Allah, mais qui se dit « j'agis au nom de Dieu ». Alors, le phénomène de radicalisation est beaucoup plus grave que simplement la chose qui peut être liée à l'islam. Mais Non seulement c'est plus grave, mais pourquoi, quand lui a fait ses attentats, immédiatement, les heures qu'on suivit, la presse a dit c'est un fou qui a agi. Un fou. Et c'est lui qui a revendiqué. Pas du tout fou. Je suis un suprématiste blanc chrétien. Et je veux combattre tous les immigrés, tous les dégénérés, etc., etc. Et pourquoi, dans d'autres cas, comme dans les attaques des deux bus en Allemagne, on dit « Ah, c'est du radicalisme musulman ». Pourquoi ? Je n'ai pas de réponse vous les trouverez vous-même. Mais je pense que si notre société veut faire face à ces problèmes, elle ferait d'abord bien de faire attention à son vocabulaire. Parce que bon, supprimer le radicalisme, vu que ça existe depuis des milliers d'années, semble un peu difficile. Par contre, faire attention à ne pas stigmatiser des gens, je ne suis pas devin. J'espère me tromper. Mais je pense que si je vais faire la même intervention dans 10 ans, je rajouterai une photo après. Avec un, alors je ne sais pas qui, avec qui, mais je sais avec quel mouvement. Avec les spécistes. Vous avez exactement, dans le domaine des spécistes, les phénomènes de radicalisation qu'on a. Pour le moment, on s'en est pris à... Enfin, tout le monde voit ce que sont les spécistes. Hein. Les spécistes, c'est ceux qui se sont attaqués aux boucheries il y a quelque temps en France, en disant qu'il faut le respect de l'animal, etc., etc. Et puis qui en sont arrivés, juste avant l'été, à des attaques de bouchers. Pour le moment, en France, il n'y a pas de mort d'homme. Mais là, le mouvement, il est... Et on a bien... Alors, pourquoi ne pas penser au bonheur des animaux ? Ça paraît quelque chose de tout à fait légitime. Hein ? Du coup, si c'est le bonheur des animaux, améliorons les conditions de traitement des animaux. Jusque-là, on suit, hein. Il n'y a pas de souci. Si on améliore la condition des animaux, ben je ne vais plus manger d'animaux. Pourquoi pas, il y a peut-être des végétariens et tout. Et puis après, ben ouais, mais il ne faudrait plus que les autres non plus mangent d'animaux. Mais c'est exactement ça le phénomène de radicalisation. La radicalisation n'est pas un phénomène qui est purement religieux. C'est cette idée qu'on part d'une croyance qui est une croyance tout à fait bénigne, mais c'est les conclusions qu'on en tire. Hansen, rappelez celui que je vous montrais, a fait une vidéo qui est une vidéo extrêmement efficace. Il commence par des affrontements de photos. Alors il montre un gamin complètement dénutri, hein. Et puis le gamin est pris, une photo qui est prise en Afrique. Puis à côté de ça, il montre un gamin complètement obèse et tout, qui est pris dans le monde occidental. Et bien évidemment, il dit, est-ce qu'on peut rester insensible à cette peine ? Ben non. Puis après, il montre un gamin du Moyen-Orient dans une maison complètement détruite, des cadavres, etc. Puis un autre gamin dans le monde occidental, entouré de jouets, etc. N'y a-t-il pas une inégalité ? Ben oui, il y a une inégalité, enfin, c'est évident. Et ben voilà, on est rentré, parce que ça se termine où, sa vidéo ? Ça se termine, ben de toutes les manières, c'est l'Occident contre les pays pauvres. En réalité, l'Occident, au bout d'un moment, dans cette vidéo, devient « ce sont les chrétiens et les juifs contre les musulmans, et puisqu'il y a une guerre, et puisque vous m'avez suivi jusque-là, vous ne voulez pas que les enfants meurent de faim, que les enfants meurent dans les hôpitaux détruits, etc., vous devez rejoindre nos groupes violents. Hein ? On a cet élément. Ce qui veut dire que le phénomène de la radicalisation est un phénomène qui dépasse l'actualité immédiate et le fait qu'on ait ou pas une centaine de gens qui sont partis en Syrie et tout, ou qui s'agitent dans des quartiers. C'est un phénomène de société qui nous pose la question, c'est pourquoi des gens refusent non seulement la société, mais la possibilité de discuter de la société. Parce que le radicalisé, ça va être ça. Ils refusent notre monde, mais ils refusent même une plateforme dans laquelle on pourrait discuter, s'entendre, arriver à des compromis. Donc, la radicalisation, se manifeste tout d'abord par la volonté de vivre une norme qui est pensée sans accommodement possible. Voilà. Donc, moi, je fais partie de l'église des Schtroumpfs, et donc, je dois absolument porter mon bonnet blanc sur la tête. Voilà, partout. C'est sans accommodement possible. La politesse, ça ne compte pas. Dieu est supérieur à moi, donc c'est pas parce que je rentre là que j'enlève mon bonnet. La chaleur et tout, c'est sans accommodement, sans discussion. Bon. Du coup, étant rentré chez les Schtroumpfs, j'ai le sentiment de rupture. Hein, je suis en rupture par rapport à vous, par rapport à ma famille. Je suis en rupture parce que je suis le seul dans cette pièce à porter mon bonnet blanc et puis mon espèce de petit juste au corps bleu. D'accord. Et bien évidemment, votre regard, même si vous ne m'êtes pas opposé, votre regard fait que je suis en rupture face à ça. Et puis ma maman va me dire, ah ben non, mais écoute, je ne t'ai pas éduqué comme ça, etc. Donc j'ai un sentiment de rupture. Je veux me sentir différent. Du coup, c'est une épreuve pour moi. Et cette épreuve me grandit. Hein? Puisque finalement, c'est parce que je vais résister à votre pression que ma foi dans le schtroumpfisme, ma foi dans le schtroumpfisme s'en trouve renforcée. Et donc, du coup, je me sens profondément différent de vous. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, comme il fait encore beau ces jours-ci, c'est ce week-end d'aller voir un groupe de radicalisés qui se trouve à 1h30 d'ici. Les moines chartreux sont des radicalisés. Volonté de vivre selon la norme. Bah, et le monde est tellement corrupteur pour eux que de toute manière ils vivent complètement à l'écart. Notion de rupture. Vous voyez votre famille qu'une fois par an. Et de toutes les manières, au bout d'un moment, vous n'avez même plus envie de les voir. Notion d'épreuve. Vous savez, vous vivez chacune dans une cellule que vous ne parlez même pas aux copains qui sont à côté. Sentiment de différence. Bah oui, les chartreux ont quand même vaguement le sentiment d'être pas très nombreux et de pas penser que la société pourra différer. Voilà. Et ça, c'est pas moi qui invente. Voilà. Les statuts de l'ordre des chartreux, la sainte vocation que nos pères nous ont transmise, nous engage sur une voie très haute. Le risque est d'autant plus grand pour nous d'en déchoir, moins peut-être par des écarts manifestes que pour la pente presque naturelle de l'habitude. La pente de l'habitude, c'est-à-dire le fait de tout simplement vivre avec vous, va m'incliner à des petites accommodations, etc. Puisque Dieu donne sa grâce aux humbles, recourons à lui par-dessus tout, et luttons sans trêve pour que ne dégénère point cette vigne du Seigneur, je me retire du monde. Bon. Alors là, vous dites, oui, bon, d'accord, les chartreux, c'est pas tellement violent, c'est pas tellement dangereux dans le monde. Sauf si vous abusez de la chartreuse le soir sur les routes de montagne, vous risquez pas grand-chose. Je prends les chartreux, mais je peux vous citer plein de maisons religieuses à Lyon où des gens vivent cloîtrés. Et ça, je prends les chartreux parce qu'ils sont dans notre région, mais il pourrait y en avoir dans toutes les régions. Dans l'hindouisme, vous savez, c'est les sadhus, ceux qu'on appelle les hommes vêtus de vent, qui se baladent, on ne se coupe plus les cheveux, on vit totalement nu, avec de la cendre sur soi, on mendie son repas, et puis le mieux, c'est qu'on vit près des gâtes, les bûchers funéraires, en mangeant ce qui peut traîner dans les bûchers et tout. Bon. Ça, ce sont donc des radicalisés. Mais ce n'est pas les radicalisés auxquels on pense. Ce n'est pas les radicalisés dangereux. Ils ont choisi de faire leur vie à côté de la société, ils n'en veulent pas à la société, ils se séparent, et puis voilà. Les tensions viennent que en plus de ces quatre éléments qui définissent le chartreux, on va rajouter, qui définissent, pardon, le radicalisé. Pardon. Lapsus. C'est la question de la tolérance. Il y a une je suis donc toujours schtroumpf. J'ai donc trois possibilités en tant que schtroumpf. C'est de dire, non, mais votre regard à vous, il est tellement fort. Bon, allez, je vais me faire un village de schtroumpf, puis je vais avec des copains schtroumpfs. Deuxième chose, c'est de dire, vous n'êtes pas violent contre moi, bah écoutez, je vis ma vie de schtroumpf. Bon, c'est un peu particulier quand même, hein. Moi, je vis ma vie de schtroumpf. Troisième attitude, et c'est là qu'on commence à être problème, c'est de dire, ah non, non, non. Vous devriez tous porter le bonnet schtroumpf. Vous voyez, la question de la tolérance, c'est-à-dire, est-ce que je vais tolérer que vous soyez différent de moi? C'est-à-dire, plus radicalisé, au bout d'un moment, inverse le système. Le système commence, tolérez-moi. Mais une fois qu'on l'a toléré, il vous renvoie le truc en disant, c'est moi qui ne vous tolère plus. Donc, modifiez-vous. Il y a une différence entre dire, bon, je suis converti à au schtroumpfisme, et puis je m'habille en schtroumpf, et puis dire à toutes les petites schtroumpfettes, toutes les petites demoiselles qui passent dans mon village, attata, costume de schtroumpfette. Là, tous, c'est obligatoire. Je prends le cas du schtroumpf, mais vous avez tous des idées de quartier dans lequel il y a des gens comme ça qui vont inciter à dire, non, non, vous devez être habillé, vous devez être couvert, etc. Deuxième élément, c'est le rapport au monde. C'est-à-dire qu'une fois que je vous ai inversé le système, donc d'abord vous m'avez toléré, mais au bout d'un moment, c'est moi qui ne vous tolère plus, et ne vous tolérant plus, je veux modifier le monde. Vous voyez comment les choses vivent? Les choses vivent au début de dire « je veux ma place », et puis au bout d'un moment, c'est pas « je veux ma place », mais c'est vous qui devez venir dans ma place. Et soit vous le faites, soit dans ce cas-là, fichez-moi la paix, je me détermine un territoire, et dans ce territoire, j'applique mes propres règles. Ça, ces six critères, les quatre critères qui définissent le radicalisé non-violent, plus les deux critères, le rapport à la tolérance et le rapport au monde, ça, c'est six critères qui sont six critères que vous allez retrouver dans toutes les périodes de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Malheureusement, je vous ai dit, ces phénomènes ne sont pas nouveaux. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la volonté de tuer et d'être tué. C'est-à-dire qu'il y a un rapport extrêmement morbide. Pensez à des mouvements qui sont des mouvements radicalisés, pour les plus jeunes, pour monter au cadre de vos parents, c'est les années 70, avec des mouvements terroristes d'extrême gauche. Marrant, pourquoi on ne les appelait pas radicalisés? Ou pourquoi on n'appelle pas les gens maintenant terroristes? L'importance du vocabulaire. Bon. Ces mouvements terroristes d'extrême gauche, qui avaient bien nos quatre éléments, hein, plus le rapport au monde et tout, bon alors qui ne rêvaient pas obligatoirement que Dieu rentre en place, que t'es plutôt athée, hein, mais qui rêvaient d'une nouvelle société, etc., et qui voulaient obtenir le changement de la société en faisant des attentats. Bon, ces gens-là avaient, ne rechignaient pas à tuer, mais ne cherchaient pas, eux, à être tués, et la mort n'était pas obligatoirement le bout du chemin. Hein. On essaye d'avoir des otages pour les monnayer. On fait des attentats, mais avant de faire des attentats, hein, on prend les gens, puis on essaye d'obtenir que l'avion aille à tel ou tel endroit, d'essayer d'obtenir des choses. Bon, bien souvent, ça dégénère, il y a des attentats, il y a des morts et autres, mais l'idée n'est pas fondamentalement de se lier à la mort. Alors que aujourd'hui, le but, c'est de tuer, quelquefois même sans revendication. Les revendications sont implicites. Dans les années 70-80, hein, dès qu'il y avait un attentat des mouvements d'extrême gauche, on avait des tas de revendications qui voulaient des choses et tout. Aujourd'hui, vous avez des attentats, quelquefois on ne sait même pas qui a commis les attentats et ce qui est demandé. Hein. Le but, c'est voilà, tuer et admettre d'être tué. Les gars qui sont dans les avions qui s'écrasent sur les tours aux États-Unis savent qu'ils ne s'en sortiront pas. Carlos, quand il commet des attentats en France, vous le connaissez puisqu'il est toujours en prison et tout, lui, bah, il se débrouille pour s'en sortir. D'ailleurs, il est en prison et tout. On a très peu de gens des attentats actuels qui sont encore vivants. Hein. Au Bataclan, ils se font tuer alors qu'ils pourraient se rendre en disant « Hop, on se rend, on va avoir un procès hyper médiatique, on pourra au procès défendre nos idées, faire du bins, etc. On pourra faire une vitrine. » Non, non, non. Ça, c'est nouveau. Deuxième chose qui est nouvelle, c'est le statut du héros négatif. C'est-à-dire que ces gens sont dans l'inversement du rapport. Vous vous rappelez ce que je vous dis sur l'inversement? D'abord, vous me tolérez, puis après, c'est moi qui ne vous tolère plus. Eh bien, c'est la même chose au niveau du discours. Hein. Plus vous me critiquez, plus vous me renforcez. Parce que vous m'êtes tellement inférieur, vous m'êtes tellement différent, que tout ce que vous allez dire contre moi ne peut que me renforcer. Donc plus vous m'insulterez, plus vous direz que c'est mal, plus ça renforce ma conviction. Vous savez que c'est un des problèmes à l'heure actuelle dans les médias, de dire, doit-on par exemple donner les noms des gens qui font les attentats? Doit-on expliquer pourquoi ils font les choses? Parce que bien évidemment, ça sert de caisse de résonance. Troisième chose, c'est que tous ces gens n'ont pas de référence à une idéologie appuyée sur un état stable. C'était pratique dans les années 70-80. Parce que les terroristes d'extrême gauche, bien souvent, ils étaient passés par l'université à Moscou, Patrice Lumbashi, qui était une université où on accueillait beaucoup de gens qui venaient un peu partout dans le monde. On savait comment. Au moment de la première affaire du foulard, vous vous rappelez, de Creil, comment ça s'est terminé? L'ambassadeur du Maroc a fait venir les familles des gamines. Et l'ambassadeur du Maroc a expliqué aux parents, vous avez encore de la famille au Maroc? Vous savez qu'on cherche à peupler le Sahara occidental? C'est marrant, hein? Les gamines ont accepté d'enlever leur foulard pendant les classes et tout. Bon. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Enfin, c'est-à-dire que nos États ne peuvent pas travailler en sous-main avec d'autres États qui les soutiendraient. C'est-à-dire que ces gens sont extrêmement volatiles. On est dans du terrorisme à intensité haute, mais à organisation basse. Intensité haute parce qu'il peut y avoir des attentats et tout, à organisation basse parce qu'une voiture, une poubelle, des blocs de béton qu'on mettrait sur la ligne du TGV, enfin voilà, nos sociétés sont tellement complexes qu'avec peu de choses, on peut commettre des attentats. Et tout ça, hein, volonté morbide, statut de héros négatif, pas de référence et une idéologie appuyée, nous, la presse passe son temps à nous parler des musulmans, penser que pour un grand nombre d'organisations de sécurité, un des grands dangers, ça serait en plus de ça, les groupes d'extrême droite, suprématistes blancs. On en entend peu parler en France, parce que vivement ils sont bien contrôlés, mais il y a eu encore il y a quelques mois des arrestations, préparation d'attentats, et en Allemagne, un ministre a été, qui venait juste de descendre des charges, mais un ministre a été tué cet été, hein, par ces mouvements. Et pensez qu'aux États-Unis, c'est pas tellement les attentats musulmans ou de gens se réclamant de l'islam qu'ils craignent, mais c'est par exemple les mouvements pro-life. Savez que l'avortement est autorisé dans un grand nombre d'États américains, mais ne se pratique plus. Parce qu'on ne compte pas le nombre de médecins tués, le nombre de cliniques détruites, le nombre de menaces, etc. C'est une forme de radicalisation. Hein. Bien comprendre que le phénomène de radicalisation dépasse le cadre religieux. Dans le cas où j'identifie que les gens qui se réfèrent à l'islam. Bon, vous remarquez, je dis les gens qui se réfèrent à l'islam, je dis les gens musulmans. Il y a profondément l'idée d'une trahison. Ils ont été trahis par tout le monde. Alors on retourne voir Mera. Là, Abdoulilah, ils ne pourront pas dire que j'ai combattu des gens innocents ou quoi. J'ai tué des juifs, comme quoi c'est ces mêmes juifs qui tuent mes petits frères et mes petites soeurs en Palestine. Allez, bon, il n'a jamais mis les pieds en Palestine, Mera. Il n'a aucun lien organisationnel avec le monde palestinien. Mais voyez comment il est en train de se créer une famille qui est une famille, une patrie, une nation, comme vous voulez, qui est purement imaginaire. Vous, que ce soit la France ou l'Amérique, ainsi que les pays alliés, vous combattez pour instaurer votre démocratie. Pourquoi nous en apprendons un État islamique? Et comment, à nouveau, il retourne les choses? Bon. Comme je te prends, par exemple, le président Hamid Karzai, je crois qu'il est président d'Afghanistan. Il prie, certes, mais il est allié avec les Américains. Donc le fait qu'il s'allie avec eux, il fait partie d'eux. Donc ça, c'est plus un musulman. Donc nous, alors là, on ne sait pas trop, de le tuer. On a la possibilité de le tuer. Vous voyez ? L'idée quand même qu'on est dans un monde où il n'y a pas de plateforme de discussion. C'est pas possible de discuter. puisque de toutes les manières, le monde entier nous a trahis. Le monde entier nous a trahis, mais heureusement, le monde entier nous donne des écrans. Reprenons mes rangs. Bon, j'ai vu à la télé que ça a été dit, t'as vu, donc ben voilà, le message est passé, tu vois, le monde entier sait que je fais partie d'Al-Qaïda. Qu'est-ce qui prouve qu'il fait partie d'Al-Qaïda ? Non pas qu'il y est allé, non pas qu'il a fait allégeance, mais les médias ont dit qu'il était d'Al-Qaïda. Et ce que je vous dis quand on renforce ces gens par notre discours ? Il ne faut jamais faire ce que je fais, mais je le fais tout le temps. Qu'est-ce qui se serait passé dans sa tête, Amira ? Si tout le monde avait dit « Un dingue se promène !» C'est un psychopathe complet et il tire les gens. Ce serait une autre manière de présenter les choses. Hein. Là, il aurait été... Ah bon, peut-être que vous verriez, il aurait multiplié les attentats, il aurait fait plus de morts et tout, mais on est allé sur son terrain. Et sur son terrain, on l'a renforcé. Ben, regarde Mesrine. Tout le monde se rappelle de Mesrine, hein, le voleur et tout, et puis un jour, dans un embouteillage... On l'arrête définitivement, on va dire ça comme ça. D'accord ? Donc tout le monde s'en rappelle. Bon, voilà. Bon. La police n'a pas voulu prendre de risque, on va dire. Il n'a pas eu de procès. Maintenant, il a été tué. Hein. Et on parle toujours de lui. Hein. Ils ont même fait un film. Et Mera va dire plus loin : moi, je vais mourir, mais j'aurai mon film. Il a raison, il a eu son film. Bon. J'y pense à une chose : quand je vois la vidéo, elle va être mise sur le net. Et elle va, bah, elle va être prise par les journalistes. Il a une GoPro. Et il diffuse des images. D'accord ? Sans savoir. Il n'a pas de réseau. Il n'a pas un plan de communication et tout. Il balance ses images sur le net. Vous allez être choqués, hein ? Parce que moi, je sais faire des montages vidéo. J'ai fait un excellent montage vidéo avec des versets où on voit vraiment. Bah, j'ai acheté une caméra GoPro ou un truc de sport extrême, la meilleure de Full HD. Bon, on voit très bien, on voit toutes les exécutions et tout. Bon. Alors, il y a dans son discours à la fois le fait que le type est quand même sous une tension énorme et tout, qu'il y a des ordres, discussions. Donc, le discours haché, il ne faut pas en faire un espèce de crétin absolu, incapable de parler, hein, mais quelqu'un qui a une tension énorme. Ce qu'il faut bien regarder, c'est plutôt la manière dont ils ont construit son discours. Voilà. Donc, il a acheté son tour. Voilà, elle va être mise sur le net. Je sais qu'elle restera un certain temps, t'as vu. Il n'est pas stupide. C'est très bien qu'en la mettant sur YouTube, ça va pas durer des heures. Hein. Et voilà, je sais qu'elle restera un temps sur Internet, mais elle sera prise par les Moudjahidines. Elle sera prise par certaines chaînes de télé. Je sais qu'il y a des chaînes qui vont la montrer, vu les scènes choquantes. Mais je sais, comme par exemple, je sais pas, il y a des chaînes comme Al Jazeera. Al Jazeera, je n'ai jamais allé présenter ça. Ou des chaînes de l'Algérie. L'Algérie. Mettre des scènes d'un type qui se revendique de Daesh. Bon. Pas une vision géopolitique très nette, ce monsieur. Ou certains pays où il les monte, normal, je veux dire, parce que moi j'ai lu des informations. Et voilà. Vous voyez comment nous l'avons renforcé. Enfin, nous, la société l'a renforcé dans son idée. Et donc, il y a la recherche des médias. Il sait que c'est comme ça que ça va fonctionner. Il sait qu'il va mourir. Alors que les forces de l'ordre vont passer d'innombrables heures à essayer de négocier et tout, il n'a pas d'otage. Hein. Il n'a pas d'otage avec lui. Hein. Donc, à la limite, vous pouvez me dire, bon, on peut essayer de le gazer, on peut essayer de faire sauter les maisons, je ne sais pas, je suis un peu extrémiste là. Mais on va essayer de discuter. Puis à un moment, on se rend bien compte que de toutes les manières, il ne sortira jamais. Parce qu'il veut être tué. On lui a donné ce qu'il voulait. Ce qui fait que, arrivé à ce moment, ce problème pose à nos sociétés plusieurs questions. Alors, il y a la question dont on nous parle en permanence, de savoir combien il y a de personnes radicalisées, etc. Bon. Les chiffres varient et tout. Mais je pense que ça pose d'abord la question de la prévention. Vous connaissez tous les campagnes Stop Djihadisme, etc., etc. Des campagnes de, voilà, qu'est-ce qui fait que vous êtes en voie de radicalisation, hein, vous n'écoutez plus de la musique, vous coupez vos anciens amis, vous retirez les membres de votre famille, parce que je pense que vous connaissez tous ces campagnes et tout. Bon. Petit bémol, c'est que toutes ces campagnes n'ont pas de... comment dire, n'y a pas vraiment d'expertise sur l'effet de ces campagnes. On a quand même demandé à un groupe de sénateurs de faire une, comment dire, une analyse des choses. Et voilà. Et plus on avance, donc Esther Benbassa, qui est quelqu'un un peu de... Hein, plus on avançait, plus on se rendait compte qu'il y avait des associations qui s'étaient engouffrées dans le créneau parce que ça rapporte de l'argent. Et que ces associations faisaient n'importe quoi. Deuxième question que ça nous pose. La question du traitement judiciaire. On a, à l'heure actuelle, deux solutions. Une première solution, c'est de dire tout le cadre judiciaire, législatif, on l'a. On a tout ce qu'il faut pour... Voilà. Ou faut-il, pour montrer notre volonté, créer de nouvelles choses. Donc, par exemple, vous avez eu la question des unités dédiées. Hein. Doit-on mettre les détenus dits radicalisés dans des unités propres. Alors vous remarquez sur ce petit graphique, ici, ce sont les attentats, et en bas, ce sont les réactions de l'État. C'est pas moi qui vous dirai il faut le faire ou pas le faire. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est de regarder. Est-ce que c'est nous, société, qui pensons les choses, ou est-ce qu'on réagit simplement aux choses? À chaque fois qu'il y a un attentat, on monte dans l'idée de faire des unités dédiées. Les premières expérimentations avaient commencé en 2014. On n'avait pas fait grand-chose. Et vous remarquez ce qui se passe en 2016. Le résultat de ces expérimentations, c'est qu'on a des rapports qui commencent à dire « ça ne sert pas à grand-chose ». N'est-on pas dans une course permanente législative qui font, enfin, une course qui fait, pardon, que on donne raison à ces gens. Puisque ces gens veulent qu'on bouge, ben nous on a bougé. Hein. Troisième chose, que faire des familles? Et là, vous avez plusieurs discours. Vous avez le discours de gens qui disent, ah mais c'était les jeunes qui sont en Syrie, non mais c'est des enfants, hein, ils ne savent pas ce qu'ils font, hein. Ils ont 21, 22 ans. À un moment, il faut ça. Enfin, voilà. Et puis, il y a ceux qui disent, ah non, le fruit est pourri, l'arbre est pourri. Bon, je peux que vous inciter, si vous ne l'avez pas fait, à regarder ce film qui s'appelle La Chambre vide. Cette dame s'appelle, c'est un documentaire, c'est vrai. Cette dame s'appelle Salia. Elle est assistante sociale en Belgique. Chargée d'essayer de voir les publics qui sont les publics en problème. Son fils la voit un jour à maman, t'es si belle, bisous, je t'aime, papa, je t'aime, etc. Le lendemain, il est parti, trois mois après, il s'est tué en Syrie. Le documentaire, c'est comment n'a-t-elle rien vu et comment la famille vit avec ça? Comment elle, qui devait être au contact des gens, n'a pas vu ce qui s'est passé pour son fils? Comment elle vit maintenant ça? Comment les familles vivent avec ça? Très belle personne, très belle... quelqu'un qui parle très bien des choses et tout, avec une énorme retenue, qui a été entendue par les députés belges, députés français, etc. Film extrêmement, extrêmement prenant. Quelquefois, non, alors il dure près d'une heure, mais quand on le passe, si vous voulez, après avoir, là, vous pouvez être sûr, vous pouvez faire un tour, vous revenez 10 minutes après, la salle est toujours dans le silence. Hein. Extrêmement prenant. Et qui nous interroge, c'est comment les replacer? Peut-on dire, ce sont tous des gamins, retrouvons-les, notre affection va tout supprimer, ou les considérer comme des délinquants irrécupérables et les familles auraient tout provoqué? Dernière question, la question sémantique. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un attentat, dit-on les musulmans? Enfin, je regrette, les musulmans, ça n'existe pas. Hein. Vous dites jamais les chrétiens. Les catholiques, les protestants, les évangéliques, les témoins de Jéhovah, etc. Vous dites jamais les chrétiens. Bon, si je vous dis, le pape catholique interdit la transfusion sanguine, vous direz, non mais tu racontes n'importe quoi. Et si je vous dis, oui mais certains témoins de Jéhovah interdisent la transfusion sanguine, les témoins de Jéhovah sont chrétiens, le pape est chrétien, donc le pape. Vous me direz, non mais c'est complètement aberrant. Vous aurez raison, mais pourquoi on le fait avec les musulmans? Pourquoi fait-on la même chose avec les musulmans? Ça n'existe pas. Le musulman avec un M majuscule. Alors vous savez qu'il y a des chiites et des sunnites. Non. Mais si vous faites toutes les subdivisions, Il y a une guerre de religion dans le monde, hein. Mais ce n'est pas contre les chrétiens. Enfin, ce n'est pas contre l'Occident. Les guerres de religion, elles sont entre musulmans aujourd'hui. Dernière anecdote, il se trouve qu'on intervient assez souvent au Sénégal. Au Sénégal, on a un islam de confrérie, et s'oppose à cet islam de confrérie un islam qui vient des pays arabes. Et donc, vous avez des affrontements assez épiques de gens formés dans les pays arabes qui disent aux Sénégalais « Ben voilà ce que c'est que l'islam !» Et les autres qui disent « Attends, ça fait quand même près de 1000 ans qu'on est musulman, on sait ce que c'est que l'islam. Hein, quand les pays arabes vous faisaient rien, les grandes universités islamiques, elles étaient en Afrique subsaharienne. » Vous savez ce que leur disent les gens de l'Union arabe ? Ils disent « Regardez la télé française, regardez les musulmans qui vous montrent, toutes les femmes sont voilées. » La France, ancien colonisateur, ils savent. C'est comme ça, les musulmans. Vous voyez comment, je vais être un petit peu géopolitique, comment nos ennemis se servent du message qu'on est pour s'en prendre à ceux qui pourraient être nos amis. Et puis derrière tout ça, en guise de conclusion, se pose finalement une question qui est une question fondamentale, à savoir, qu'est-ce que nos sociétés sont prêts à accepter au nom du principe de la religion. Bien évidemment, vous êtes tous membres de l'église monstre du spaghetti volant. Non, n'est-ce pas ? C'est une vraie religion. Regardez, il y a eu des peintures. Le monde a été créé par un plat de spaghetti bolognaise. Le monde a été créé en 4 jours parce que le spaghetti bolognaise était tellement ivre qu'à partir du jeudi soir, il était incapable de travailler. C'est pour ça que les choses vont très mal dans le monde, puisque le spaghetti n'a travaillé ni le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche. Hein? Donc du coup, nous les fidèles du spaghetti, vous voyez, j'étais schtroumpf, maintenant je suis spaghetti, pastafariste, nous les fidèles du spaghetti, nos jours fériés, c'est vendredi, samedi, dimanche. Pas logique. Hein? On a un paradis. Boîte à striptease et fontaine à bière. On a un enfer. Boîte de striptease et fontaine à bière. Non. Dans l'enfer, tous les stripteaseurs n'ont des MST et la bière est chaude. Nous avons nos 10 commandements. Ah ben oui. Premier commandement, vous me tuez, c'est à peu près comme ça. Hein. Mets pas ton pèse dans les temples, aide plutôt les pauvres, les hôpitaux, ou paye ton abonnement Internet. Voilà. Le 10e commandement, si vous me prouvez que j'ai tort, on vous donne 1 million d'euros. Parce que c'est quoi ça? C'est une pochade, bien évidemment. Mais c'est une pochade qui nous interroge. Et je terminerai par-dessus. C'est une collègue de sciences naturelles au Canada. Elle est allée faire son permis de conduire. Habillée comme ça. Et on lui a fait son permis de conduire. Peu de temps après, elle revient. Comme ça. Avec un bandana. Et là, le fichier de la mairie lui dit « Ah ben non, vous pouvez pas, vous devez avoir la tête découverte. » Et elle dit « Ah ben moi, je peux pas découvrir ma tête. » Parce que nous, les pastafaristes, nos prophètes, ce sont les pirates. Et les pirates portent des bandanas. Donc soit je porte le bandana des pirates, soit je porte l'autre couvre-chef des pastafaristes, qui est une passoire. Et quand vous prenez les spaghettis, il faut une passoire pour enlever l'eau. Voilà. Vous avez l'un ou l'autre. Et le fichier est assuré, il dit « Mais madame, elle dit, mais attendez, vous m'avez autorisé ça? Ça, je suis beaucoup plus découverte. » Et elle dit, mais non, vous devez être découverte. Elle dit, mais là, je suis encore moins découverte. Bon. Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette dame? Bien sûr, elle ne prend pas au spaghetti. Voilà. Mais ce mouvement nous interroge. Jusqu'où va notre tolérance? Pourquoi l'officier d'état civil, enfin l'officier de la mairie, a toléré le haut et pas le bas? Au nom de quoi? La tradition? Il y a 100 ans, il n'y avait pas de musulmans au Québec. Hein. Tradition récente. Autre élément, pourquoi dans un certain nombre, c'est comme ça qu'a commencé le courant pastafariste, c'est dans les universités américaines où les créationnistes ont obtenu que la moitié du programme de sciences naturelles, ça soit les théories de la Bible. est la moitié météorite de Darwin. Et lui est allé voir le chef de l'université en disant « Ah non, non, un tiers la Bible, un tiers Darwin, un tiers le spaghetti. » On lui dit « Mais vous êtes dingue. » « Ah non, vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est ma religion. Vous m'excluez. » Ce qui signifie que, bien sûr, il n'y a pas de solution, à part peut-être réfléchir à ça. Mais je crois que sur, pour un dernier mot, pour terminer sur cette question de la radicalisation, je crois qu'on, bien évidemment, bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire, etc., puis je me garderai bien de le dire, mais peut-être, un, faisons attention à la manière dont on parle des choses. Arrêtons d'essentialiser les choses. Ce sont les musulmans, ce sont un tel, etc. Hein? Remettons de la complexité. Plus on mettra de la complexité, plus on prouvera la vitalité de nos sociétés et plus on s'opposera à ces mouvements. La deuxième chose, malheureusement, dans 30 ans, on pourra refaire sans doute la même intervention. Ça ne sera plus les musulmans, ce sera peut-être les spécistes ou les soucoupistes ou les je ne sais pas quoi. Donc je vous redonne rendez-vous dans 30 ans, on aura un autre produit. Hein? Oui, non, mais parce que vu l'âge du départ à la retraite. On aura, c'est un phénomène qui nous pose une question fondamentale, qui est la place. Pourquoi des gens refusent de négocier? Pourquoi des gens refusent de négocier avec la société? Puis la troisième question que nous pose ce cas, c'est qu'est-on prêt, au nom de la religion, surtout dans un état laïque, à tolérer? On tolère des choses qu'on ne tolérerait pas. La religion, c'est le bon truc comme ça, derrière lequel on peut mettre à peu près n'importe quoi. Voilà, je vous remercie. Ah ben, moi je suis à votre disposition, madame.
Au regard des médias, est-ce qu'il y a une réflexion par rapport justement à tous les articles qui peuvent paraître? Parce que, effectivement, vous dites, les médias stigmatisent ou les musulmans, une autre fois, ce sera autre chose. Et on le voit bien aussi en psychiatrie. Où quelquefois on dit le schizophrène machin a tué, et on dit pas la rectocolite hémorragique a tué. Enfin voilà. Et est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça?
C'est un peu plus difficile à prononcer. À 20h.
Non, mais où la palpicite, je sais pas quoi. Là, monsieur Mathieu comprend mieux. Je veux dire, la palpicite a tué.
Bon, est-ce qu'il y a une réflexion? Bon, moi, je suis du monde universitaire. Il y a une chose qui nous énerve. C'est que l'expertise, elle existe dans le monde universitaire et on ne comprend pas pourquoi la société ne s'en sert pas. Et la réaction, c'est de dire, soit ne nous payez pas, faites-nous faire autre chose, parce que c'est quand même votre argent qu'on dépense pour faire des analyses et tout, mais si vous nous payez, c'est que vous pensez qu'on est vaguement utile, donc servez-vous de ce qu'on fait. D'accord ?
Qui est plus robuste que...
Qui est plus robuste, qui demande plus de temps. Voilà. Alors, ce qu'on voit sur les analyses de médias, si cette question des médias vous intéresse, je vous conseille un web documentaire qui a été fait sur le Canada, il faut chercher collège Maisonneuve. Voilà. Le collège, c'est l'équivalent des premières années d'université au Canada. Maisonneuve, c'est donc un gros établissement, si vous voulez, où on a l'équivalent des bac plus 1, bac plus 2. Il y a eu 5 gars qui sont partis en Syrie. Et là, il y a toute une analyse, parce que, du coup, les médias en ont fait un tel truc que les collègues qui allaient, les gens dans la rue, leur disaient, mais vous avez un gilet pare-balles, vous êtes... alors qu'il ne se passait rien. Donc vous avez des images qui opposent justement le discours des médias et la réalité. Et comment les gens qui ont été pris dans ce flot de langage des médias ont eu un effet qui est un effet extrêmement négatif. Donc, voilà, les analyses existent. Après, nous, en tant qu'universitaires, on peut dire, voilà, oui, le rôle, enfin, ce que j'essaie de vous dire, oui, le rôle des médias est extrêmement important parce qu'on qualifie. Pourquoi on les appelle terroristes et pas... pourquoi on les appelle radicalisés et pas terroristes? Pourquoi Breivik est un psychopathe et pas un radicalisé? Voilà. Donc on pose toutes ces questions. Maintenant, après, bah, il va y avoir l'opposition entre les médias qui disent « Au nom de la liberté d'expression, nous devons dire. » Et vous savez qu'au nom de la liberté d'expression, vous rappelez, je ne sais plus la date exacte, mais de ces personnes qui ont pris un patron en otage, deux gars qui ont pris un patron en otage, et il y avait à l'intérieur de l'usine un type... Ouais. Non, c'était il y a un an ou deux. Il y avait à l'intérieur de l'usine un gars qui avait un téléphone portable et qui indiquait à la police les choses. Et je crois que c'est BFM qui a dit « Ouais, c'est super, la police est aidée par un type qui est planqué dans un placard à l'intérieur de l'usine. » Ouais, c'est le frère Kouachi. Voilà. Bon, et là, voilà. Mais après, bah, il faut bien penser que... je ne sais pas si vous êtes convaincu ou pas par ce que je dis, bon. Mais quelle chaîne de télé acceptera pendant une heure que je parle? Enfin, moi je suis rien, mais d'autres, vous voyez. Mais l'effet des médias là-dessus est essentiel, ils qualifient et ils renforcent les choses. Le cas de Mera est très très clair. Je suis d'Al-Qaïda parce que BFM a dit que j'étais d'Al-Qaïda. Et les têtes de réseau sont extrêmement intelligentes là-dessus. Après, il y a une deuxième analyse qu'on fait des médias, c'est en quoi les médias participent à la radicalisation. Alors là, une fois de plus, il faut un peu se méfier des idées faciles. Quelqu'un se radicalise avant tout parce qu'il rencontre quelqu'un. Voilà. Il rencontre quelqu'un dans une salle de sport... Maintenant, les mosquées sont quand même assez surveillées, mais ils rencontrent quelqu'un. Et Internet va servir soit à préparer la rencontre, parce que le gars regardait des vidéos et tout, il n'a pas l'idée de passer tout seul, soit une fois que notre personnage a rencontré son leader, le leader va lui dire « Mais nous ne sommes pas tout seuls. Oui, à Vaulx-en-Velin, nous ne sommes que 10, mais si tu regardes Internet, tu verras qu'on est plus. » Ce qui veut dire que Internet ne crée pas la radicalisation. Hein. La majorité des gens qui regardent les vidéos où on voit les gens s'égorger, etc., c'est vous, c'est moi. Hein. C'est-à-dire c'est des gens qui vont voir ça parce qu'ils disent « Oui, l'information n'est pas bien » ou pour nous renforcer dans l'horreur qu'on a des choses. Ce n'est pas en regardant ce type de vidéo que les gens se radicalisent.
C'est pas scientifique ce que je dis, mais quand les médias parlent, par exemple, d'attaque au couteau, ça donne des idées. Enfin là, je suis pas scientifique quand je dis ça, mais ça donne des idées à plein de gens qui peuvent relayer.
Non, je pense que les idées, les gens n'en manquent pas. Hein. Donc, non, le... Enfin, je suis un peu embêté parce que je vous ai dit, je veux pas dire ce qu'il faut faire, mais vous me poussez un peu. Bon, je pense que ce que pourraient faire les médias, c'est remettre de la complexité. Bon, voilà. C'est pas les musulmans. Je veux dire, après tous les attentats, la majorité des responsables de mosquées disent « Ce ne sont pas des musulmans, etc. » Alors qu'on arrête. Qu'on mette... Alors, peut-être pas qu'on dise salafisme, mais qu'on dise un type qui se prétend, etc. On dit des spécistes, on dit pas les amis des bêtes ont attaqué les boucheries. Pardon ? Ouais. Non mais je veux dire, on fait pas de confusion là-dessus. Donc, attendez, ça serait la première chose. La deuxième chose, où il y a un débat important, c'est la question des noms, des appartenances, etc. Est-ce qu'on ne doit pas diluer les choses ? Bon, le problème c'est qu'on est des démocraties. Donc si TF1, la 2, etc. s'entendent sur quelque chose, donc on ne citera plus les noms, bon. Ça peut marcher quand même. Il y a un endroit où l'État a demandé un blackout dès l'information a été obtenue. Vous vous rappelez les attentats du 11 septembre? Vous avez vu un cadavre? Il y a une seule photo qui a été publiée de mort, c'est une main arrachée. On voit une main comme ça arrachée et tout. Elle est restée 2 heures. Immédiatement au moment des attentats, le gouvernement américain a demandé à tous les médias ne montrez pas de cadavres, alors que c'était entre guillemets pas difficile. Vous avez peut-être vu les vidéos où on voit un journaliste parler, puis vous entendez derrière lui, pouf, c'est les gars qui sautent et qui s'écrasent. Donc, les images, elles existent, elles ne sont jamais sorties. Comme quoi, là, il y a eu comme un espèce de réflexe dessus. Bon, ce qui a permis après de réorienter les choses. Bon, l'État, on ne va pas discuter de ce qu'a fait la politique américaine, d'ailleurs. Mais ça a un effet très important. Maintenant, le fait qu'on n'en parle plus, si ça continuera à exister. Hein. Mais que les... Voilà. Qui est peut-être une complexité et une attention au langage, je pense que ça serait pas mal. Mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas qu'une question de bien, c'est une question de société. Qu'est-ce que notre société a après accepté ou pas et tout. Parce que les phénomènes que je vous décris, ben en effet, c'est des groupes politiques d'extrême droite, voire d'extrême gauche. C'est des groupes religieux. C'est pas uniquement les musulmans. Mais vous avez... Nous, on a eu un problème, par exemple, à l'université. On a deux demoiselles qui, à 3 ans, sont arrivées. Elles avaient toujours été dans des écoles juives. Elles n'ont pas pu tenir. Elles ont tenu 15 jours. Enfin, personne ne leur disait rien. Hein. Faites qu'elles aient avec leur perruque. Enfin, ça n'embêtait personne. Mais c'est elles qui ne pouvaient pas vivre. Enfin, qui ne pouvaient pas voir des femmes qui n'avaient pas de perruque, des hommes qui étaient en short, comme on sait la rentrée universitaire, de ça. Elles n'ont pas pu tenir. Elles sont allées faire leurs études dans une école spécialisée à Jérusalem et tout. Donc ce n'est pas un problème musulman. Pourquoi, ce que je dis, pourquoi vise-t-on ça, et pourquoi ne mettons pas de complexité? Bon, enfin, je trouverai facilement les réponses. Oui.
Justement, pour éviter les
raccourcis
simplistes portés par les médias, est-ce que vous ne pensez pas que les autorités religieuses, quelles qu'elles soient, ont une vraie responsabilité dans la clarification aussi de. Enfin, les musulmans, etc., on entend rarement les autorités religieuses nous expliquer ce que sont les musulmans et ce qu'on fait aussi.
Alors, le cas de la France est extrêmement particulier sur les autorités religieuses. D'abord, on a un problème fondamental, c'est qu'on laisse la religion être tenue par des religieux. Qu'est-ce que je veux dire? Il se trouve qu'il y a peu de temps, je rencontre quelqu'un du Conseil d'État. Et il me dit, ah, les musulmans. Je dis, oui, les musulmans, mais enfin. Il dit, ah ouais, mais ils sont 12 millions. Je dis, mais... Je suis désolé, je suis en ligne, mais où est-ce que vous avez tiré ce chiffre de 12 millions? Il me dit, ah mais c'est le responsable de la mosquée de Paris qui me l'a dit. Mais nous, comme nous n'avons pas de statistiques, c'est très facile. Bon, en réalité, les musulmans, selon les études, sont peut-être entre 3 et 5 millions. Et encore, qu'est-ce que c'est qu'un musulman, hein? Est-ce qu'il faut faire le ramadan? Est-ce qu'il faut faire le pèlerinage, etc., etc. Donc, les autorités religieuses, si vous voulez, ont à la fois intérêt à ce que les choses ne leur soient pas imputées, d'accord ? Donc à chaque fois qu'il y a un attentat, la majorité des responsables de mosquées disent « ne confondez pas l'islam », etc. Ça, c'est inaudible. C'est inaudible à la fois parce que les médias, parce que la société ne veut pas l'entendre, mais ces autorités religieuses n'ont pas intérêt non plus à ce que l'État revienne sur quelque chose de fondamental qui est qu'il n'y a pas de statistiques religieuses en France. Parce que du coup, chacun peut s'autoproclamer et tout. Le Canada a des statistiques religieuses. Hein, et des statistiques extrêmement précises. Et quand on entend les résultats, on ne pourrait que militer, mais faites des statistiques en France. Parce que du coup, les statistiques au Canada vont complètement à l'opposé de tous les a priori. La majorité des filles qui sont des musulmanes sont beaucoup plus éduquées, beaucoup plus émancipées que ce qu'on veut dire. Parce qu'elles considèrent qu'être dans nos pays est une chance d'émancipation par rapport à ça. Ce qui va complètement à l'antithèse de l'idée préconçue et tout. Ces statistiques montrent qu'entre quelqu'un qui vient du Proche-Orient et puis quelqu'un qui vient de l'Afrique subsaharienne, il n'y a aucune unité. Que les gens venus de l'Afrique subsaharienne se sentent beaucoup plus proches des gens du pays catholique, etc., qu'ils ne se sentent proches de musulmans turcs, par exemple. Oui, ils remettent de la complexité. Mais nous, en France, au nom du principe de laïcité, que je ne critique pas, on n'a pas de statistiques. Enfin bon, on n'a pas de statistiques, le ministère de l'Intérieur doit bien avoir des statistiques. Ce qui fait qu'on est sur cette ambiguïté. Hein. À la fois un discours des autorités religieuses qui est en grande partie inaudible, et puis, d'un autre côté, des religieux qui ont intérêt aussi à un flou, parce que ce flou leur permet... Voilà, nous sommes 12 millions. Et un monsieur qui est membre du Conseil d'État, c'est pas non plus un type qu'on a pris dans la rue et tout. C'est quelqu'un qui... Voilà. Mais c'est quoi sa source d'information ?
Une dernière question, puis après on...
Oui, par rapport à votre intervention, ce qui interpelle, tu as énormément d'éléments de tous horizons, mais la question que je me pose, c'est quel est l'intérêt qu'on a à qualifier, à apporter le terme de radicalisation au niveau d'un groupe ou d'un autre ? On en a un exemple. On n'a pas de conséquences, c'est Chartreux, vous avez démontré, puis un autre, où il nous touche, parce qu'on a des morts. Pour autant, se rendrait-on compte nous-mêmes si on était radicalisés ? Les radicalisés se rendent-ils compte qu'ils sont pris dans un mouvement comme ça ? Parce que, si on prend une autre dimension, là on ne parle pas de Dieu, etc., mais on pourrait, par une plaisanterie, un peu le faire, au nom du Dieu argent, il y a les guerres et un massacre de la planète qui sont bien plus importantes que quelques conséquences, malheureusement, hein, je ne fais pas l'apologie du terrorisme, des attentats qu'il y a eu. Donc, se rend-on compte de la radicalisation dont on est nous-mêmes l'objet dans une société où on nous pousse au résultat, à la performance, au nom d'un budget, toujours. Et se rend-il compte, mais en fait, qu'est-ce qu'on cherche en qualifiant celui-ci de con, celui-ci de radical, celui-ci, est-on nous-mêmes un con, un radical ? Je ne sais pas, c'est ce que ça m'inspire. Essayer de voir la chose dans une complexité... où nous-mêmes on est prise et on a finalement peut-être en supérieur aller intérêt à qualifier l'autre.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une conclusion parfaite. Hein. Ouais. Chacun passe à... Oh. Voilà, merci, oh. Vous m'évitez de dire. Rien à ajouter. Hein. Si ce n'est que bah, c'est bien, alors j'ai bien travaillé. Quoi. Mais vous avez totalement raison. Totalement raison. Moi, ce que je voudrais, c'est que voilà. Voilà, on arrive à ça, raisonnement. Bon, après, il y a le côté policier, le côté judiciaire, le côté santé publique, le côté prévention, enfin, il y a tous ces volets et tout, bien sûr. Mais déjà, nous, si la société faisait cet effort,
merci,
on n'empêche pas la violence.
Ça fait 6 mois que Laurent répétait, donc...
Ouais, c'est bien.
C'était
bien.
Parfait. Merci.
La prochaine intervention, je vous invite.
Voilà. En tout cas, merci encore en votre nom à Monsieur Martin. J'ai eu le plaisir de l'entendre à Valence, à une réunion formation organisée par l'Agence régionale de santé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à l'écouter. Et, c'est très simple et en même temps d'une complexité structurante pour nous. On aura l'occasion cet après-midi d'en reparler. On salue Céline.